Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Radio Alliance Plus, au micro Michel Jass, je ne range pas ma bibliothèque cette fois-ci. Je rencontre un ami avec qui je discute assez souvent et on s'est retrouvés quand je suis arrivé à Nîmes. On se connaissait quand nos deux fils étaient en classe ensemble. Et oui. Plusieurs fois, je t'apercevais de loin, mais voilà, je savais que nos deux garçons...
ils étaient dans la même classe.
La même classe et ils s'appréciaient bien.
Marie Soboul.
Voilà.
Oui.
Et puis peut-être au collège, peut-être.
Ils étaient au collège, aussi. Sans doute. Mon fils est allé au collège.
Voilà, là, il devait
la Révolution.
À la Révolution, ils étaient encore ensemble. Mmh. Voilà, alors, donc, j'ai... Et puis, depuis, Yvan, il s'agit de toi, Yvan Michel, avec le nom de famille Michel et ton prénom Yvan.
C'est ça.
Et en fait, donc, on a beaucoup discuté, philosophie, théologie, sociologie, en tant que Nîmois aussi, tous les deux. Tu n'es pas de famille protestante?
Pas du tout.
Bien que tu aies été entouré de protestants.
Oui.
Dans ton enfance aussi, parce que tu es issu de la Placette.
Mais à la Placette, dans le quartier où je vivais, qui était avec la Placette au centre.
Oui. Hein,
moi, je suis né rue de Lons-Souberan.
Voilà. Oui.
Eh bien, il y avait des catholiques et des protestants.
Voilà.
Mais nous... c'est-à-dire, les gens comme moi, c'est-à-dire du peuple, les ouvriers, on s'en foutait complètement.
Ah, voilà.
Mais on savait
qu'il y avait une
distinction. Qu'il y avait cet antagonisme et ces gens différents. Et il y a un livre qui montre bien ce qu'est cette présence des deux confessions dans le peuple.
Oui.
C'est pareil à des enfants, un grand écrivain ni moi. De Marc Bernard,
parce qu'il
montre comment, c'est ce que je voulais dire, les familles protestantes et catholiques se disputent les enfants du peuple.
Ah oui. Pour les animations paroissiales, quoi.
Pour les faire entrer
dans leur propre religion,
dans leur confession. Voilà.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Et ce livre, pareil, il y a des enfants. Met en scène ce conflit et cet antagonisme autour du petit héros, qui est l'écrivain, celui qui deviendra écrivain.
Oui, d'accord.
Et qui est parfaitement nîmois. Mais alors, on ne peut pas faire mieux. Quoi.
Et puis tu m'as expliqué, parce qu'on est ensemble, on a visité la Placette, on a fait le tour de ce quartier, tu m'as expliqué un peu tes souvenirs d'enfant, là, et puis aussi où étaient les catholiques, où étaient les protestants. En fait, il y avait quelques familles catholiques, mais un peu des bourgeois, finalement.
Ah, mais c'était plutôt des bourgeois.
Et en fait, il y a peu à peu le reste des maisons.
D'ailleurs, je pense que les protestants étaient plus populaire. Hein.
Oui, c'est ça, oui. C'est...
Je crois.
Mais les bourgeois étaient au quai de la Fontaine, ils n'étaient pas à la Placette. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, là-bas, nous n'y allions jamais.
Ah, voilà. Et puis, je crois qu'il y avait commencé à avoir quelques gitans.
Mais,
il y en avait, il y a plein,
Oui, c'était la communauté nîmoise gitan habitait la Placette et toutes les rues alentour.
Voilà.
Et surtout, la fameuse rue Château-Fadèze.
Ah, c'est ça, oui.
C'est là qu'il y avait trois ou quatre familles qui habitaient dans le même couloir, juste à côté du fameux Château-Fadèze.
C'est ça.
Voilà.
Oui. En fait, donc, aussi nos itinéraires, parce que moi je suis nîmois d'origine, mais se sont un peu croisés parce qu'on n'était pas dans le même quartier, etc. Puis après coup, je suis devenu pasteur ici à Nîmes, mais ta connaissance m'a beaucoup intéressé. Et alors ce qui est rigolo, c'est que toi, catholique du peuple, qui as vécu à côté de protestants du peuple, mais qui n'étaient pas forcément très religieux, mais enfin, la jeunesse qui était là.
Les mères protestantes étaient religieuses.
Elles allaient au temple et les pères, ils allaient au café, comme les pères catholiques.
On les sentait, elles avaient beaucoup d'autorité, je trouve.
Ah oui, d'accord.
C'est une impression qu'on avait, parce que oui. Nous, les enfants, on allait partout, dans toutes les maisons.
C'est ça.
Et chez les protestants, on marchait sur la pointe des pieds.
Et alors, ce qui est aussi rigolo, c'est que du côté de ta maman, vous veniez d'une région du Luberon, qui était avec...
Là, en fait, c'était... Oui, c'était du côté de ma mère, mais c'était son père. Qui était... Le oui. Cucuron-les-Olivettes.
Voilà, c'est-à-dire que c'est le village catholique au milieu des villages protestants du Luberon.
Ah, ça, je ne le savais
et
pas.
Et alors, tu sais, j'ai pas mal travaillé aussi les Vaudois, et alors on parle de l'émigration des Vaudois issus du Piémont, hein, et qui sont devenus protestants. C'est une hérésie du Moyen-Âge, ils sont devenus protestants. Et en fait, dans le Luberon, les villages ont été protestants, sauf... Cucuron, qui est un joli village, mais qui était le bastion catholique.
Tu as été toujours le
catholique, mais après, tu as quand même pas mal évolué, parce que je crois que tu n'es plus tellement catholique, mais tout en étant spiritualiste.
Pas du tout, oui.
Alors, tu vas nous parler un peu de ton histoire personnelle, et puis aussi, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu aimes la philosophie, tu as rencontré des personnes diverses, et puis tu as beaucoup philosophé avec les uns et les autres,
oui.
Et dans cette période qui correspond à notre génération, c'est-à-dire que c'est il y a mai 68, et puis l'époque,
oui.
Le passage au nouveau siècle.
Oui.
Alors, donc, tu as rencontré beaucoup, tu connais tout le monde à Nîmes.
Je connais beaucoup de gens.
Tu commences par qui?
Non, je commence par moi, en fait. J'étais un garçon plutôt intelligent à l'école.
Oui.
Et j'aimais l'école.
Oui.
Mais à la puberté, j'ai eu besoin de m'éclater. Donc j'ai arrêté l'école, je suis parti dans la rue. C'est important, ça.
Ah.
Je suis parti dans la rue et ça s'est traduit que je me suis retrouvé en maison de correction sans avoir été un délinquant extraordinaire. Hein.
Oui.
C'était des broutilles, des choses d'enfant, quoi.
Oui.
Et je suis resté 2 ans à Agnane, c'est important de le dire.
Oui, Agnane dans l'Hérault.
Agnane dans l'Hérault, c'était la maison de redressement la plus célèbre de France.
C'est ça, ouais.
Et qui était d'ailleurs très dure.
Oui.
Je suis resté 2 ans.
Ouais.
Alors pourquoi je fais commencer mon histoire là? Parce que j'avais eu... À 13-14 ans, une vie de petit délinquant sans plus, quoi.
Oui.
J'avais quitté l'école. Oui. Et là-bas, enfermé,
ouais.
J'ai souffert.
Uh-huh.
C'est vraiment... pour moi, ça a été terrible. Ça a été une épreuve terrible. J'ai découvert la lecture.
Ah voilà. Oui, tu t'es mis à lire.
C'est là-bas que j'ai commencé à lire. D'abord, les grands romanciers.
Oui.
Et quand je suis sorti, la vie ne m'a pas paru si intéressante que ça.
Ouais.
Donc je me suis plongé dans la lecture.
C'est ça.
Et là, j'ai découvert la grande littérature,
puis
la philosophie. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré, alors parmi les personnages remarquables que j'ai rencontrés, grâce à un ami qui était poète occitaniste,
oui.
Le pasteur Zaroukian, que tu as connu.
Que j'ai connu à Montpellier, oui.
Et qui, à l'époque, pour moi, c'est un des hommes les plus remarquables, un des intellectuels les plus remarquables que j'ai rencontrés et qui m'a beaucoup apporté. Il avait une culture universelle. Hein. Il pouvait parler de littérature, de poésie, de philosophie. Il avait fait un diplôme sur Sartre, hein, c'est dire.
Oui, oui.
Et de religion aussi, mais il n'était pas du tout prosélyte, quoi. Enfin,
oui, c'est ça.
Ouais. Pas du tout. Moi, un jour, je lui avais posé une question, parce qu'il m'intriguait, il me passionnait.
Oui.
Tu vas voir, c'est quand même intéressant. je lui ai dit, mais monsieur Zaroukian, vous qui êtes chrétien, comment se fait-il que vous lisiez Jean Genet, que vous y trouviez votre compte, quoi.
Oui.
Oh, il m'a dit, tu sais, Jean Genet, il prouve quelque chose qui est très chrétien, c'est que l'homme veut être aimé avant tout. Voilà.
Ah oui, c'est fort.
Ça a été sa réponse.
Oui. Oui, oui.
Et c'est une réponse qui m'avait impressionné. Donc ça a été une des premières grandes rencontres intellectuelles que j'ai faites, mais qui ne m'a pas du tout rapproché du christianisme ou du protestantisme.
Oui.
Le christianisme m'attirait.
C'est ça.
Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à lire, le christianisme m'a attiré. C'était la personne du Christ, voilà.
Oui, oui.
Le Christ représentait vraiment pour moi...
Et son enseignement, les paraboles, etc.
Oui, bien sûr, mais j'ai beaucoup lu les évangiles à cette époque.
Oui.
Et en plus, donc c'est aussi à cette époque que j'ai découvert Hegel, lors d'un petit épisode carcéral. Et Hegel m'a conforté dans... Hegel m'a rendu philosophe, d'abord, ça c'est vrai, oui. Ça a été une découverte, mais il m'a conforté dans la prédominance que je donnais à la pensée religieuse. Voilà.
Ah oui.
Non mais si, c'est important de le dire, parce que je me souviens que mes copains ne me comprenaient pas sur ce point.
Oui.
Ils étaient plutôt philosophes, etc., etc., idéologues. Et ils ne comprenaient pas, quand je voulais leur expliquer, que la religion touchait plus profondément l'humain parce que ce n'était pas un enseignement savant. Voilà. C'est qu'elle s'adressait à l'homme immédiat. Voilà. Et ça, c'était ce qui me touchait.
Ah oui, parce que c'est vraiment intéressant, parce que tu l'as vécu à l'époque un peu de 68, finalement.
Avant.
Un peu avant, ah oui, d'accord.
Juste un an avant.
Ah oui, oui, oui. Et après, parce qu'après, on a oublié que Hegel avait, il y a une dimension philosophique profonde.
Profonde.
Et un peu théologique, même beaucoup théologique.
Beaucoup.
Il est resté un chrétien luthérien.
Il sortait de là.
Oui, oui, oui.
Il sortait de là.
Il n'arrêtait aucun culte.
Oui, Hegel. Mais... oui.
Et alors, en fait, oui, alors tu as découvert, parce que c'est quand même pas facile à lire, Hegel, mais tu as pu rentrer dans cette
d'abord... littérature. Le livre qui m'a permis de le découvrir, c'est un livre que je crois accessible, pas à tous évidemment, mais qui est accessible. C'est La raison dans l'histoire. C'est une compilation de ses cours d'histoire.
Voilà. Ah oui.
D'histoire philosophique.
Et c'est vrai que c'est vaste, Hegel. On montre que pour lui, il y a Dieu, enfin, le Père, le Fils, l'Esprit, sont un peu dans l'histoire du monde, enfin, dans un mouvement dialectique.
Oui.
Il est dans le peuple, il est dans cette création d'un avenir.
Attends. Hegel, j'ai lu La raison dans l'histoire.
Oui.
Et ça m'a beaucoup éclairé. Voilà. Ça a été une découverte. Et puis après, j'ai lu La phénoménologie de l'esprit, qui est un livre beaucoup plus difficile, mais que j'ai gardé, pour ainsi dire, toute ma vie. Voilà. Mmh. Et dans La phénoménologie de l'esprit, Hegel montre comment la conscience, qui commence dans la perception la plus élémentaire, aboutit au savoir absolu, qui est l'illumination... De la connaissance de l'esprit. Voilà.
Oui, oui, oui.
Donc, la phénoménologie de l'esprit, c'est cette histoire de la conscience. C'est comme l'a dit Heidegger, qui a écrit un très bel article là-dessus,
ouais.
C'est l'expérience de la conscience. Voilà. C'est la science de l'expérience de la conscience.
Ouais.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire rapidement,
ouais.
Quand même. Donc ça commence dans la sensation, la perception, l'entendement, la raison et l'esprit. Voilà les cinq étapes.
Ah, voilà. Oui.
Tu as compris?
Oui, hein? Oui, oui. Avec une évolution
voilà.
de l'être humain, le dialogue avec son prochain, jusqu'à l'esprit, quoi, finalement.
Jusqu'à l'esprit.
Qui est en nous et en dehors de nous, quoi.
Voilà. Et ce qui différencie Hegel des autres philosophes plus traditionalistes, quoi.
Oui.
C'est qu'il n'y a pas chez Hegel ce partage entre le corps et l'esprit.
Oui.
Pour Hegel, la vie de l'esprit est action. Voilà. C'est l'action qui unit le corps avec son propre présent et le présent du monde.
Uh-huh.
Tu me comprends ?
Oui. Enfin, je ne suis pas un connaisseur de Hegel, mais...
Non, ce que je veux dire, c'est que pour lui, il n'y a pas de division corps-esprit.
Oui, c'est ça, oui, oui, oui.
C'est la vie qui est dans le corps, qui est agissante et qui engendre la vie de l'esprit. Voilà.
Oui, c'est ça. Oui. Mais et ça... Que beaucoup, au XIXe siècle, beaucoup de protestants, des théologiens protestants étaient influencés par... étaient très proches d'Hegel.
D'Hegel, hein, bien sûr, d'Hegel. Oui.
On pourrait dire que même Samuel Vincent, qui était un des premiers théologiens nîmois, qui dirigeait une revue en français sur la philosophie et la théologie, ben, il était hegelien. Après, il y a eu simplement, à la fin du XIXe siècle, une redécouverte de Kant, qui est, lui, est plus dualiste.
Alors que, il est plus dualiste. Alors que, et moi, justement, je dis, le dualisme m'emmerdait.
Voilà.
Il m'emmerdait parce que je ne comprenais pas.
Oui.
Qu'est-ce que c'était cet esprit qui n'avait pas de corps, ce corps qui n'avait pas d'esprit,
oui.
Cette opposition, ce oui, dualisme, oui. Tu l'as bien dit,
oui, oui.
Voilà. Tandis que chez Hegel, ça n'existe pas.
Voilà.
Chez Hegel, l'esprit, c'est l'action.
Et,
voilà.
Oui, oui. Et c'est ce qu'on va... Après, l'hegelianisme sécularisé, on le comprend bien avec le marxisme. Avec le...
Ah, mais complètement.
Mais toi, donc, à un moment, ça a été ta découverte.
Mais c'était avant.
Voilà.
Avant.
Oui.
Justement, le marxisme, est peu, après mai 68, il est venu un peu me perturber, parce que forcément, je n'étais pas insensible au chant des sirènes du marxisme,
oui.
De la révolte populaire, etc. Mais moi, mon élément était dans le hegelianisme. Voilà.
Ah oui. Mais je crois que tu m'avais dit qu'à l'époque de 68, tu trouvais quand même que les gens qui étaient très, très engagés, etc., t'agaçaient un peu parce qu'ils simplifiaient un peu le
mystère. Mais moi,
le
ils m'agaçaient beaucoup.
Oui.
Ils m'agaçaient pas un peu.
Oui.
Et j'étais... j'étais, oui, en opposition même.
C'est ça.
D'ailleurs, c'était pas des gens très cultivés, sauf, évidemment, c'est un mouvement qui a gagné toute la vie intellectuelle française. Alors forcément, il y avait des grands écrivains, des sociologues, etc. Ils ont tous été gagnés par oui. cette pensée révolutionnaire. Mais en fait, le mouvement étudiant
oui.
qui a créé ce mouvement, oui. qu'on le veuille ou non,
oui.
ils étaient plutôt ignorants. Et justement, je voulais te dire quelque chose à l'autre fois où on en parlait, c'est que comme les médias, enfin les médias, les gens qui avaient le pouvoir,
oui.
ils le savaient que ces jeunes gens étaient assez ignorants.
Ah, ouais.
Et dans les interviews, moi je m'en rappelle très bien, dans les premiers jours de mai 68, ils les questionnaient exprès pour leur faire avouer quel était le contenu culturel de leurs revendications.
Oui,
et ils étaient très embêtés.
Mais
oui, parce que les chefs oui. du mouvement... C'est, moi, j'ai un bon ami, un Nîmois, donc, qui était, qui faisait partie de l'élite. C'est un copain de Cohn-Bendit, etc.
Oui.
Les Sauvageaux, Cohn-Bendit, celui qui a tenu pendant longtemps... Les Trotskars, là.
Ah oui.
Tu vois pas
non,
qui...
Non, non, mais j'ai un problème avec les noms de famille.
Mais non, mais il était très connu. Il oui. a fait une carrière politique.
D'accord.
Et il était le chef du parti trotskiste.
Ah oui, d'accord. Oui, oui. Je vois qui tu veux dire, mais je...
Krivine.
Ah oui. Ah, Lingard, d'accord. Je pensais à un autre. Oui, OK.
Voilà, Krivine. Bon, donc, mon copain Jean-Marcel, qui est ni moi, est un passionné de journalisme. Il était très lié... avec la tête pensante.
Ah, c'est ça.
Et c'était des gens qui n'étaient pas très cultivés.
Ah oui. Oui, oui.
En tout cas, ils n'avaient pas la culture classique que moi j'aimais.
Ah oui.
Et qui était ma passion.
Oui, tu avais lu Camus, tu avais lu Sartre, Heidegger. C'est vrai que tu avais passé beaucoup de temps à te plonger dans toutes ces... à la fois les littératures et la philosophie.
C'est-à-dire que quand je suis sorti de maison de correction... Je te l'ai dit l'autre jour, il ouais. y a eu trois choses qui m'ont marqué. Ouais. D'abord, cette épreuve où j'ai fait l'expérience de la puissance du social. Quoi.
Ouais.
Tu as beau être n'importe qui, on est obligé d'obéir. Quoi. Ouais, on vit ouais, dans ouais. une société, on est obligé d'obéir. Ouais. Donc ça a été une épreuve pour moi, parce que j'étais un gamin un peu sauvage, quoi, voilà. Puis il y a eu l'expérience de la sexualité et de l'amour.
Oui.
J'ai vécu une passion terrible, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui m'a démoli. Ouais. Et puis la mort de mon père. La mort de mon père. Mon père est mort subitement. Ah. Il était séparé de ma mère. Et...
Oui. Et il venait te voir à Agnan.
Ah, ben, ouais. J'ai toujours eu de bons rapports avec mon père, ouais. Oui. Mais ce qui est important, c'est cette mort subite.
Subite.
Voilà. C'est qu'un soir d'août 1963, je venais d'être libéré et mon père, quelqu'un est venu à la maison, c'était 9h du soir, pour nous apprendre que mon père, qui vivait quand il venait à Nîmes chez sa maîtresse, avait eu un malaise grave.
Uh-huh.
Et moi, j'ai dit, oui, d'accord. Ce que vous voulez, c'est de savoir si on va le prendre à la maison,
ouais.
Voilà, puisqu'il y avait un problème.
Ouais.
Et il était là, il était dubitatif, ce type que je connaissais bien d'ailleurs, c'était un type de la Placette.
Oui.
Et j'ai dit, mais il n'est pas mort quand même. Il m'a dit si.
Ah oui.
Et là, vraiment, pour moi, ça a été... Ça n'a pas été un chagrin, ça a été beaucoup plus terrible, quoi.
Ah.
Ça a été ma première rencontre avec le réel.
Ah, c'est ça, ouais.
C'est...
Oui.
Et là, ça m'a... Du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un d'autre.
Ah.
D'ailleurs, la vie ne m'intéressait plus, quoi. Les autres ne m'intéressaient plus.
Oui.
Alors que j'avais été un petit gamin sauvage qui s'amusait avec tout le monde.
Oui.
Du jour au lendemain, ça a été fini, quoi. Et donc, je me suis plongé dans la lecture.
Oh, oui, tu as continué.
Et là, j'ai beaucoup lu. Oui. Voilà.
Et sur le plan alors de la croyance religieuse, tu n'avais pas de compte à régler parce que tu n'étais pas de famille bien pratiquante.
Non, on ne m'avait pas emmerdé avec ça. Quoi,
c'est pas
voilà.
Parce que ceux qui ont vécu 68 comme une rupture par rapport à un ancien monde, etc. Toi, ce n'est pas du tout ton cas.
Non, je n'étais pas du tout comme ça.
Voilà, tu savais qu'il y avait du religieux ici et là, mais qui n'était pas forcément très intéressant.
Voilà. Et je m'y suis intéressé parce que ma sensibilité me portait à m'intéresser aux messages chrétiens, au contenu de... C'était le personnage du Christ qui me touchait.
Oui.
Voilà.
Mais tu n'es pas pour cela rentré dans une vie très religieuse.
Pas du tout.
Mais alors, et en fait, tu m'avais expliqué aussi, alors donc c'est une sorte de libération, c'est Freud aussi qui t'a libéré un peu.
Ah, mais après.
Assez après.
Ouais.
D'accord.
Parce qu'après, il y a eu mai 68, et mai 68, en fait, je peux le dire, ça a été un problème pour moi. Je n'étais pas d'accord avec le désordre de leur pensée, hein.
Oui.
Parce que c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que mai 68, était une révolution sociale qui a apporté des choses importantes, mais intellectuellement, c'était un grand désordre.
Oui.
Voilà. Et moi, j'étais un classique. J'aimais, j'aimais la culture classique, donc la littérature. De la poésie, j'avais une connaissance incroyable.
Ah oui,
j'avais lu des poètes du monde entier.
Ah, c'est formidable.
Ah oui, oui. Ouais. Ben, j'avais une telle passion.
Ouais.
Et puis, je dois le dire, je te l'ai dit l'autre jour, mon ami qui était l'ami du pasteur.
Du pasteur Zaroukian.
Zaroukian. Mon ami Jean-Louis Guin, qui était plus âgé que moi, et qui a été un peu à mettre à penser.
Ah oui.
C'est lui qui me disait, il m'avait écrit une fois, mais ce que tu as fait en 2 ans, ça relève du génie.
Voilà. Ah, oui.
Cette compréhension que tu as eue, sans aide aucune, comme ça.
Oui.
Et c'est vrai, parce que j'étais... j'avais un enthousiasme, une telle passion des mots, de la littérature, de la poésie, que j'assimilais très facilement les choses les plus difficiles. Oui. Par exemple, je me souviens que la première fois que j'ai eu entre les mains des romans de... le roman moderne, le nouveau roman, voilà. Et notamment Samuel Beckett. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Ah,
ça m'a parlé tout de suite. Voilà. Donc, il faut comprendre ça pour savoir quelle sorte de jeune homme passionné et c'est intelligent, ça. Je le dis. Voilà, oui. J'étais, quoi, c'est important, parce que partout où j'allais, je ne me retenais pas, je livrais...
Ah, tu rentrais en dialogue avec
les
uns,
avec
autres.
Je parlais avec tout le monde.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient, oui. Oui, oui.
Et voilà.
Oui, oui. Mais alors, en fait, oui, tu étais un philosophe et quelqu'un qui aimait la littérature, mais pas de façon livresque pour accumuler les diplômes et avoir...
Pas du tout. D'ailleurs, ce que j'ai appris dans cette période et par mon expérience, c'est comment se forme une véritable pensée,
oui.
Avec l'aide des livres, oui. Mais pas substantiellement liée à la lecture.
C'est ça.
Ouais. La lecture venait après coup confirmer ce que, dans mon expérience, j'avais compris.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais,
c'est ouais. Important.
Ouais, ouais.
Parce que justement, tous les gens avec qui je parlais, ouais. Ils n'avaient des livres, ouais. des grandes pensées, qu'une connaissance livresque.
C'est ça.
Voilà. C'est...
Oui, alors après, tu as eu un boulot, tu es beaucoup déplacé dans tout le sud de la France.
Alors après...
Et...
Mai 68 m'a rendu malade, voilà, ça c'est...
Ah oui.
Ah oui, ça, faut le dire. Et c'est pour ça, tu as parlé de Freud, bon, je vais en venir.
Oui, alors vas-y.
Parce que, comme j'étais malade, vers 70, tu vois,
oui.
Je ne faisais plus rien. J'ai quand même réussi à continuer à lire, et autant que je me souvienne, c'est à cette époque-là, que j'ai lu La recherche du temps perdu,
ah, oui.
Qui est le plus grand livre de l'histoire de la littérature française.
Oui.
Mais j'étais quand même comme paralysé par ma névrose.
Oui.
Et donc ça a duré de 70 à 76.
Ah, oui.
Mais ce que j'ai fait, je ne suis pas allé chercher un maître, ni... Non, j'ai essayé de réapprendre à vivre.
Ouais.
Voilà. Et donc, c'est à cette époque que j'ai fait ce travail, ce boulot dont tu parles, et qui m'a fait visiter la moitié de la France.
C'est ça.
Et qui ouais. était très instructif, en
oui.
fait. Et c'est pour ça que le moment où je me suis senti délivré de cette paralysie mentale qui m'avait pris juste après mai 68, c'est... En allant travailler à Toulon, je te l'ai raconté l'autre jour, où en arrivant sur Toulon, on était sur un promontoire, et on voyait la ville comme ça.
Oui.
C'était mon copain qui conduisait la voiture, et j'ai vu ce que je t'ai dit, je le répète parce que je l'ai noté à l'époque, j'avais déjà commencé à noter ce que je vivais pour l'analyser, pour le comprendre. J'ai vu le miracle d'un accord actif avec la banalité triomphante. Voilà. Ce qui était pour moi un lieu de vie fermé, dont j'étais exclu, d'un seul coup s'est ouvert.
Une sorte de communion avec le réel.
Complètement.
Ah oui, mais alors, et tu te rappelles que je t'avais expliqué, mais je comprends ça. C'est un déclic dans la vie, quelquefois, on est appelé à se structurer, à s'apaiser
oui.
par une sorte de regard. Il y a quelque chose de mystique, un peu, quoi.
Bien sûr. Alors, à partir de ce moment-là, ma vie a changé.
Ah, mais c'est ça, c'est formidable.
À partir de ce moment-là, je me suis, pour employer un mot qui est à la mode depuis, je me suis reconstruit. Voilà.
Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est...
Je m'étais déconstruit,
oui, c'est étonnant,
je m'étais perdu. Et là, à partir de ce moment, je me suis reconstruit.
Oh. Merci beaucoup, Yvan Michel, mon cher ami, voisin, ni moi avant tout.
Mais ça a été un plaisir parce que j'aime parler, moi, de mon expérience,
oui.
de mon histoire.
Et puis, on aime beaucoup discuter ensemble
oui.
et avec beaucoup d'autres de philosophie, de théologie.
C'est qu'il y a tellement de choses à dire
voilà.
et à lire.
Merci.
Et à vivre.
Au revoir.
Au revoir.